C'est le moment de parler de football et nous accueillons tout de suite Bruno Eppel. Salut Bruno.
Salut Mario.
Avant de parler de la NFL, peut-être un avant-goût du Super Bowl en fin de semaine, quelques mots sur les Alouettes de Montréal qui ont annoncé la mise sous contrat pour 3 ans de l'entraîneur Kerry Jones plus tôt cette semaine. Kerry Jones qui a signé un contrat sans savoir qui allait être son directeur général et le futur DG à être nommé, lui, n'aura pas le loisir d'embaucher son entraîneur. Comment tu vois ça se développer?
Bien, c'est évident que c'est pas la meilleure chose. Si tu voulais normalement engager ton GM, de laisser choisir son entraîneur-chef. Ceci étant dit, Kerry Jones, il n'y avait aucune chance qu'on le laisse partir avec ce qu'il a créé comme ambiance, ce qu'il a créé comme résultat sur le terrain. C'est l'homme de la situation. Tout le monde dans l'organisation l'adore. Mais moi, ce que j'avais entendu, c'est que Kerry Jones, lui, une des choses qu'il faisait, qu'il négociait dans son contrat, c'est avec qui je vais travailler? Parce que veux pas l'entraîneur-chef puis le directeur général travaillent conjointement un avec l'autre.
Oui.
Donc, lui, c'est clair que ça l'intrigue et qu'il a hâte de savoir. On annonce qu'il a signé son contrat. J'imagine que peut-être il va faire partie des discussions lorsqu'on va venir le temps de choisir la personne qu'on va mettre à ses côtés pour travailler avec lui conjointement. Parce que l'entraîneur-chef puis le GM, là, minimum 1 à 2 fois par semaine, sont en meeting, puis il faut qu'ils s'entendent bien.
Ah, il faut qu'ils soient alignés. Non, c'est sûr, c'est sûr. On entend parler en coulisses là, d'une candidature qui viendrait de l'organisation de Winnipeg, qui vient de remporter la Coupe Grey. Je ne sais pas si tu es capable de cibler un individu là-bas. Il y a aussi un autre nom.
McManus, si j'ai bien compris.
Oui, ah oui, ça serait lui, McManus.
Ben, il y aurait deux individus qui seraient en liste. Là, dont,
c'est l'ancien quart arrière, ça?
Oui, oui, celui qui nous a battus, là,
ben
la
oui.
Coupe Grey en 80, je me rappelle, 80 tranquille, là. Non, Danny McManus, qui serait pressenti, entre autres. Moi, au côté personnalité, là, tu vois, ça, c'est un genre de personnalité, je pense, qui pourrait bien s'entendre avec Kerry Jones. C'est un gars humain, et c'est un gars qui est en train de rouler sa bosse à la position de, ben, dans le monde du GM, si on veut, tu sais, comme assistant GM, dans le monde des opérations football. Complètement différent que d'être entraîneur, il faut le comprendre. Là. C'est deux domaines qui se rejoignent, mais qui sont différents.
As-tu l'impression que le nom de Danny Mathiosha est quelque part dans le portrait?
Je n'ai pas entendu son nom sortir. On a mentionné deux noms, là, dont Danny McManus et un autre dont j'oublie le nom. On va attendre de voir des développements. C'est sûr qu'on va faire des entrevues avec plusieurs personnes. Première des choses, c'est pas garanti parce que tu fais le coup de fil que la personne est intéressée à venir chez vous. Ça, c'est la première des choses. Il faut que tu te fasses une liste d'environ au moins 5-6 individus, j'imagine, que tu les rencontres. Puis après ça, bien, que ça fasse l'affaire de l'organisation et évidemment l'affaire du bonhomme en question. Là. Fait que c'est une démarche qui va être faite. En bout de ligne, ce qu'il faut assurément, selon moi, c'est que ce soit quelqu'un qui est compatible avec notre entraîneur-chef, qu'on espère garder ici avec son groupe d'entraîneurs pendant plusieurs années pour créer une stabilité. Regarde les équipes là, qui étaient à la Coupe Grey. Regarde Winnipeg qui a gagné la Coupe Grey. C'est des équipes qui ont eu de la stabilité à la position de GM, de propriétaire et d'entraîneur-chef depuis plusieurs années.
Depuis le renvoi de Kev Sreed, on a travaillé, semble-t-il, en comité pour le remplacer. Kerry Jones faisait partie de ce comité. Donc, là, c'est sûr qu'il y avait un bon alignement entre tout ce monde-là. Puis, dans ce personnel-là, qui était chargé de combler certaines des responsabilités du DG, il y avait Éric Deslauriers. Est-ce que ça serait un peu trop vite de le faire graduer dans un poste comme celui-là? Lui qui n'a plus de contrat au moment où l'on se parle, le vois-tu occuper un rôle, en tout cas, chez les Alouettes à partir de la saison prochaine?
Je le vois assurément occuper un rôle à partir de l'an prochain et rester avec l'organisation. D'ailleurs, une des premières choses qu'on a fait du côté des Alouettes lorsqu'on a mis Kevin Sweet à la porte, c'est de réengager Éric Deslauriers qui avait été mis à la porte par Kevin Sweet. Je pense que c'est un signal qu'on l'aime beaucoup. C'est un gars, je pense pas qu'il soit prêt tout de suite à être mm-hmm. en directeur général, mais définitivement peut être dans les opérations football et occuper un titre plus élevé que ce qu'il y avait avant. Ça, moi, j'ai aucun doute dans ma tête, qui commence à être qualifié pour occuper un poste important avec les Alouettes. De là à dire GM, je te dirais, je pense qu'Éric serait le premier à reconnaître, il y a peut-être des choses à apprendre encore, ça fait pas si longtemps que ça qu'il est dans le milieu.
Un mot bien vite sur les signatures annoncées par les Alouettes aujourd'hui et hier, dont celle d'Hugo Richard et de Samuel Thomassin et de quelques autres, Bruno. Qu'est-ce que ça t'envoie comme message?
Bien, ce que j'aime, c'est qu'on a re-signé nos choix repêchage, donc dont Thomassin. Ça, c'est une bonne nouvelle, ça veut dire qu'on les gars ont fait le travail, ont assez impressionné pour qu'on les réinvite au camp d'entraînement. Donc, au niveau du repêchage, je veux dire qu'on a fait un bon travail. Puis, en bout de ligne, moi, c'est bien beau, là, mais j'ai pas de gros noms, là, dans ce qu'on a annoncé comme signature. Moi, j'ai hâte qu'on commence à nous annoncer qu'on déniche des joueurs de ligne défensive, parce que c'est vraiment là qui est notre gros problème. C'est là qu'il faut adresser cette lacune-là si on veut devenir une équipe qui va être capable de franchir l'étape, la prochaine étape, c'est-à-dire d'être compétitif, pas seulement pour être dans les éliminatoires, mais avoir une chance de gagner en éliminatoire.
Bruno, juste avant de passer à la NFL, je pense pas que tu as eu le temps, mais je prends une chance, as-tu eu le temps de lire le livre de Jacques Dussault, le coach, ou est-ce que quelqu'un t'a rapporté ce que Jacques Dussault dit à ton sujet? Sinon, moi, je vais le faire.
Ah ben tu le feras, j'ai pas eu la chance malheureusement de lire. Ah,
personne t'a parlé de ça?
Non, personne m'a parlé de ça.
Tu sais pas ce qu'il a dit à ton sujet, tous les péchés que t'avais commis?
Oh non, c'est pas ça, Mario!
Non, tu sais qu'est-ce qu'il a dit, Jacques? Écoute, il a dit que tu avais probablement été, ou possiblement été, le meilleur Québécois à avoir joué pour les Alouettes de Montréal.
Wow! Ok, ben tu me l'apprends.
Pas payé comme okay, compliment? Ben,
un pas pire compliment, je te dirais que je vais le prendre. Puis venant de Jacques, en plus, qui a été mon entraîneur des unités spéciales pendant plusieurs années, un gars que je connais aussi depuis le cégep du Vieux-Montréal, là, bon ami de Marc Santerre, ça me fait de quoi, là? Tu me l'apprends, pour vrai, je trouve ça vraiment, vraiment, vraiment cool.
Ben, je suis content d'être celui qui te relaie le contenu et j'invite les gens à le lire d'ailleurs.
Il
y en a vu pas mal, puis pour les gens qui n'ont pas entendu l'entrevue, elle est disponible dans les audios de l'émission de... Ça remonte à mercredi qu'on a fait le coach, alors allez dans les audios de mercredi, on est le 29, 28, 27, 27 novembre, donc vous allez le trouver facilement. Maintenant, NFL, est-ce que ça ressemble à un avant-goût d'un Super Bowl, ça, les 49ers de San Francisco contre les Ravens de Baltimore, une fiche de 10-1 contre une fiche de 9-2.
Bien, en début de saison, on aurait dit Mario, il faut que tu ailles prendre tes médicaments. Mais là, je te dis, suis tes choses parce que c'est la réalité. C'est deux équipes qui ont vraiment surpris la plupart des personnes. Il y a du monde sûrement qui avait prédit que les Niners seraient bons, que les Ravens seraient bons. Mais à ce point, je ne pense pas que personne n'avait prédit ça, qui serait dans la tête de chacune de leurs conférences. Puis en ce moment, on a tous hâte de voir cet affrontement-là en fin de semaine. Évidemment, pourquoi? Lamar Jackson, que personne n'a été capable d'arrêter. Il ne faut pas oublier qu'il a joué contre les Seahawks, il a joué contre les Patriots, il a joué contre les Texans d'Houston, puis les Rams la semaine passée. Puis à chaque fois, on a gagné par deux touchés ou plus du côté des Ravens. Fait que les Niners ont la meilleure défense de la Ligue et affrontent le gars que personne n'a été capable d'arrêter, incluant les Patriots, qui sont la deuxième meilleure défense de la Ligue. Ça va être du bonbon. On a tous hâte de voir ça, un affrontement de choix en fin de semaine.
Un match qui n'aurait pas dû avoir la signification qu'il aura ce week-end, et j'en parle parce qu'on suit de près, bien sûr, l'équipe de Laurent Duvernay-Tardif. Les Chiefs à 7 victoires, 4 défaites contre les Raiders à 6-5, mais un match qui aura une signification au classement, là.
Ben absolument, parce que puis personne n'aurait pensé ça aussi. Ça, c'est une autre surprise, les Raiders. Rappelons-nous là, du fiasco d'Antonio Brown. On se disait la saison des Raiders est perdue. On n'a pas le talent pour être capable d'être compétitif. Et là, soudainement, on se retrouve à la 13e semaine d'activité et les Raiders sont à un petit match des Chiefs qui sont en tête de leur section, alors que tout le monde pensait que les Chiefs étaient pour être se sauver avec cette section-là. Ceci étant dit, il y a eu beaucoup, beaucoup de blessés du côté des Chiefs de Kansas City.
Des gars qui sont prêts à venir là, dans la plupart des cas. Hein?
Ben exact. C'est ça l'affaire. Là. Patrick Mahomes a manqué des matchs. Tyreek Hill a manqué des matchs. Là, il va être de retour de sa blessure de la semaine passée. Frank Clark. Défensivement, on a des gars qui reviennent. Je parle de Frank Clark et plusieurs autres reviennent au jeu. On a une équipe en santé pour la première fois du côté des Chiefs. Et les Raiders, eux, se présentent au Arrowhead à Kansas City, avec un corps arrière qui vient de se faire varloper par Sam Darnold la semaine passée contre les Jets, une défaite cinglante de 37-3. Et il est 0-5 au Arrowhead. Fait que je comprends l'importance du match, mais je vais quand même mettre mon argent sur les Chiefs. Je pense que les Chiefs vont sortir un gros match et les Raiders, je suis pas sûr qu'ils vont voir quelque chose dans ce match.
Hey, j'oubliais de t'en parler. On va finir avec ça. Défaite des Cowboys à Dallas hier, 26-15 contre Buffalo. Le propriétaire Jerry Jones est descendu au vestiaire avant que le cadran indique qu'il n'y avait plus de temps. Semble-t-il qu'on a entendu que ça se parlait fort, qu'il y avait beaucoup d'émotions dans le vestiaire. Il en est sorti en disant que vous allez peut-être penser que j'en ai fumé du bon, là, mais c'est un club de Super Bowl. Jerry Jones qui a dit ça. C'est un club de Super Bowl, puis c'est avec Garrett qu'on va y aller.
Ben, j'ai bien hâte de voir ça, parce que je peux te dire qu'en ce moment, ce qu'on voit du côté des Cowboys, c'est une équipe qui a beaucoup trop de talent pour jouer aussi mal. Puis ça, dans ce temps-là, tu as juste une chose que tu peux pointer du doigt, puis c'est le coaching.
Ben, c'est pas ça que Jones a fait hier. Il a endossé son entraîneur, mais on verra pour combien de temps encore.
J'ai hâte de voir comment on va rebondir, parce que là, c'est deux défaites consécutives, dont une à l'Action de grâce, chez vous, devant tes partisans. Ça, je comprends, les Bills, c'est une bonne équipe, là, mais c'est quand même inacceptable si t'es une équipe qui se dit prête à aspirer au Super Bowl.
La dinde a passé de travers, paraît-il.
J'en doute pas. J'aurais pas voulu. Je comprends qu'il l'a backé en public. J'aurais quand même pas voulu être Jason Garrett quand il a croisé Jones dans le corridor après la game.
C'est sûr.
Je suis pas sûr que ça a été le fun.
Puis il a dit que toutes les décisions qu'il allait prendre dans le prochain mois, c'est pour amener son équipe au Super Bowl. Puis on verra la suite, Bruno. C'est tout le temps qu'on a. Bonne fin de semaine, mon cher.
Plaisir. Salut tout le monde. Bonne soirée.
Merci, Bruno. Ciao, ciao. Et dans un instant, on s'entretient avec un grand collectionneur de baseball, celui qui a fondé Expos Fest, qui est à l'origine de l'avenue de bien des anciens à Montréal dans des activités pour promouvoir l'intérêt du baseball. Perry Giannis, qui est avec nous dans un petit moment, qui nous raconte son histoire.